Allons donc ouvrir nos Bibles pour, dans cette première étude, je le dis au préalable également, pour introduire notre sujet. C'est un grand sujet. Je l'annonce d'emblée, nos amis organisateurs le savent déjà, nous ne pourrons pas traiter la totalité du sujet, disons, tel qu'il figure dans mes notes, sur les quatre études de ce week-end. Il en faudrait le double. Donc, nous avons déjà décidé au départ de ne traiter qu'une première moitié du sujet, c'est-à-dire une introduction suivie d'une approche ce soir, dans la deuxième rencontre, sur ces fameux discours séduisants qui étaient évoqués tout à l'heure. Et puis demain matin et demain après-midi, nous nous arrêterons sur les philosophies trompeuses parce qu'à elles seules, elles représentent un plat de résistance suffisamment copieux pour que nous n'ayons pas envie d'aller plus loin dans le cadre d'un tel week-end. Parce que vous allez voir, le sujet est important, il n'est pas des plus faciles à traiter non plus, et nous souhaitons que chacun d'entre nous puisse repartir à l'issue de ce week-end en pouvant décanter paisiblement ce que nous avons partagé, en sachant aussi comment l'appliquer à nos propres vies. Donc il s'agira aussi d'être le plus pratique possible dans cet enseignement. Je crois avoir souligné l'essentiel. Bien entendu, ces quatre études forment une suite. Dans toute la mesure du possible, bien sûr, nous comprenons que ce ne soit pas forcément possible pour tout un chacun, mais dans toute la mesure du possible, si vous êtes là pour chacune des études, elles seront plus profitables pour vous, vu cette homogénéité, si vous voulez, du sujet. Voilà, je vous propose une première lecture dans la lettre de Paul aux Colossiens, bien entendu, au chapitre 1er. Nous allons lire les 11 premiers versets. Donc, Colossiens chapitre 1er, les 11 premiers versets. Je vous laisse le temps de trouver le texte. Et après les 11 premiers versets, nous irons au verset 21 à 23. Je lis donc dans Colossiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Verset 21. Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait serviteur. Nous réservons les versets 12 à 20 pour demain matin. Nous y viendrons demain matin en particulier. Je vous invite à prendre deux autres lectures qui sont dans la même veine, dans 2 Timothée, 1 Timothée tout d'abord, 1 Timothée, chapitre 4, donc première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 4. Les 3 premiers versets. 1 Timothée, chapitre 4, les 3 premiers versets. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Dans la deuxième lettre à Timothée, donc le livre suivant, deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4 également, de Timothée, chapitre 4, nous en lisons les 4 premiers versets. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ayant les oreilles chatouillées, les oreilles qui démangent littéralement, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables ou vers les mythes. Nous allons essayer, dans un premier temps, de situer le texte qui est sous nos yeux dans son contexte. Ce n'est pas sans importance, comme vous allez le voir. Nous allons évoquer très rapidement Colosse, la ville elle-même. Nous dirons quelques mots de l'Église et bien entendu des circonstances qui ont conduit l'apôtre Paul à rédiger cette lettre. Colosse, petite ville, petite bourgade, insignifiante. À l'époque où Paul écrit, petite ville située en Phrygie, le bonnet phrygien, ça vous dit quelque chose, dans une partie de l'actuelle Turquie, la province d'Asie, mais pensez à la Turquie, au pied d'une montagne de 2400 mètres, à 3 ou 4 journées de marche environ de la côte et de la grande capitale Éphèse, à peu près 160 kilomètres de là. Colosse, une ville au passé florissant, bien connue et citée par les grands historiens, Hérodote, Xénophon, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui avait été riche, populeuse, grâce à son industrie de la teinture, la laine et les tissus pourpres en particulier, son sol volcanique, donc fertile aussi. Elle avait été riche, c'était peut-être même une des villes les plus célèbres de toute l'Asie mineure. Elle était, pendant des siècles, située sur un grand axe routier à un endroit stratégique, et on sait que de tout temps, Les routes ont eu beaucoup d'importance, ou les fleuves, pour l'implantation des cités. Et comme je l'ai dit, à l'époque de Paul, elle n'est plus qu'une petite bourgade décadente, une petite cité insignifiante, tout simplement parce que le nœud routier qui l'a favorisé s'est déplacé. Elle n'est plus un carrefour, comme ça arrive quand une autoroute contourne une cité, n'est-ce pas ? Et du jour au lendemain, certaines situations basculent. Elle avait, cette cité, deux voisines, Laodicée, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, qui l'a supplantée parce qu'elle, elle avait ce carrefour avec ses cinq grandes routes, capitale d'un département de la province à quelques 16 km de là, une ville très peuplée, très douée dans le domaine du commerce, un centre bancaire très intéressant et important, un centre commercial et industriel, renommée elle aussi pour ses tissus de laine noire lustrée. On peut mieux comprendre un texte de l'Apocalypse 3 à 17 qui la concerne, parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Ça, c'était la mentalité de cette cité de Laodicée. 16 kilomètres de là. Et une autre ville à environ 20 kilomètres, Hierapolis, la patrie d'un philosophe bien connu, Épictète, cité thermale, elle, située à flanc de montagne, station climatique, grand centre religieux. Et il est intéressant de savoir que ces trois cités ont vécu un drame, elles ont été détruites par un terrible tremblement de terre peu après la rédaction de cette lettre aux Colossiens. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Le message avait d'autant plus d'importance que Dieu, lui, savait que l'église de Colosse allait être terriblement secouée par un drame dont la ville de Colosse aurait de la peine à se remettre. Elle mettrait 5 années à peu près à se relever de ses ruines, alors que ses voisines, Laodicée notamment, réussiraient à le faire beaucoup plus vite, ayant des moyens financiers beaucoup plus importants. Et puis, Colosse reconstruite a subi diverses invasions et elle a fini par disparaître entièrement au Moyen-Âge. Des trois villes, il ne reste que des ruines actuellement. Et c'est là, dans cette petite cité de Colosse, qui a beaucoup d'importance au regard de Dieu, que se trouve une église. Des enfants de Dieu, des croyants, des hommes, des femmes, des jeunes, leurs enfants, qui se réunissent et qui n'ont pour la plupart jamais rencontré l'apôtre Paul. Ce n'est pas moi qui l'invente, vous irez dans l'épître aux Colossiens, vous verrez au chapitre 1er verset 4, au chapitre 2 au verset 1er, de manière très claire, l'apôtre Paul souligne que ils n'ont pour la plupart jamais vu son visage. Ce sont essentiellement des anciens païens. Et c'est important aussi, qui se réunissent chez Philémon, un homme qui a les moyens, un croyant, un mécène aussi, qui a sans doute une vaste demeure. C'est le petit billet personnel de Paul à Philémon qui nous l'indique indirectement. Et il y a au milieu de ces croyants d'origine païenne, quelques croyants d'origine juive, parce qu'il y a toute une implantation, une colonie juive qui s'est installée là, je crois, au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qui s'est développée peu à peu. L'Église a certainement été fondée par Monsieur Épaphras, dont le nom, vous l'avez lu avec moi, se trouve au verset 7. Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Épaphras, peut-être aussi d'autres collaborateurs de Paul, sont-ils allés à Éphèse et ont-ils rencontré l'apôtre Paul qui annonçait l'évangile et qui tenait même une petite école biblique à Éphèse pendant 3 ans. Il a connu des situations parfois bien difficiles et certainement, à la faveur de son enseignement, Épaphras et Philémon se sont-ils tournés vers Jésus-Christ? Ils ont été instruits par Paul, d'après certains documents anciens, entre 11h du matin et 16h de l'après-midi, au moment où les gens s'installaient dans la somnolence de la journée, où tout s'éteignait, n'est-ce pas, où on ne travaillait pas. L'apôtre Paul, lui, en profitait pour donner ses cours. Et ils sont repartis ensuite, animés de cette vision de fonder des églises et d'annoncer l'évangile à Colosse. Et c'est ainsi qu'une église locale est née. Cette église est donc toute jeune. Elle a quelques années d'existence derrière elle. Et Epaphras a fait un long voyage. Il est parti vers Rome et il est allé s'installer non pas à l'hôtel 3 ou 4 étoiles d'une des grandes avenues de la cité, non, il est allé aux côtés de l'apôtre Paul qui est emprisonné. Il est allé s'installer à ses côtés pour partager sa captivité et pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir s'entretenir avec lui, pour pouvoir être instruit, parce qu'il a des soucis. Il a des soucis, et vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Qui remplace Epaphras? C'est un certain Archippe. Je vois que je vais être gâté, j'en ai déjà un, mais ça ne fait rien, ça en fera trois, mes amis. C'est merveilleux et je profite puisque le service des eaux fonctionne bien. Je vous remercie pour votre gentillesse. Epaphras va être donc remplacé par Archippe, qui est probablement le fils de Philémon et d'Aphia, son épouse, et qui accomplit un ministère dans cette église, Colossiens chapitre 4, verset 17. Et l'apôtre Paul, quand il va entendre Epaphras, il va bien sûr l'instruire, mais il va aussi prendre la plume. Et trois lettres vont sortir de cette prison de Rome en même temps, écrites pratiquement dans le même jet de plume. L'épître aux Éphésiens, qui a de grandes similitudes par certains côtés avec l'épître aux Colossiens, il y a des phrases entières qui sont tout à fait semblables. Épître aux Éphésiens qui peut-être était une lettre circulaire adressée à toutes les églises d'Asie mineure, si vous voulez, de Turquie, en commençant par Éphèse, la capitale, tout simplement parce que on a découvert des textes qui ou bien avaient un blanc, il n'y avait pas marqué Épître aux Éphésiens, mais il n'y avait rien du tout. Et on a même trouvé une épître aux Éphésiens qui portait un autre titre, Épître aux Laodicéens. Or, il est question dans Colossiens au chapitre 4 d'une épître aux Laodicéens. Au verset 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et il se pourrait que ce soit cette fameuse lettre aux Éphésiens, tout simplement. Vous avez donc l'épître aux Colossiens, 40 points communs au moins avec Éphésiens. Et puis un petit billet, j'en ai parlé tout à l'heure, le petit billet personnel à Philémon concernant un esclave qui avait fait des siennes, qui travaillait au service de Philémon et qui s'est enfui pour aller vivre la belle vie à Rome. Et puis là, sans doute la maréchaussée a-t-elle mis la main sur lui, a-t-il commis quelques frasques, toujours est-il qu'il s'est retrouvé en prison et qu'une main s'est abattu avec douceur sur son épaule et que quelqu'un l'a regardé dans les yeux en lui disant « Connais-tu Jésus-Christ ?» Et il s'est dit « Mais le Dieu de mon maître m'a poursuivi jusqu'ici. » L'apôtre Paul, qui annonce l'évangile à Onésime, Onésime qui se tourne vers Jésus-Christ, bien sûr, vous imaginez la situation difficile et la nécessité pour Onésime d'être aidé de manière à retrouver son maître le mieux possible. Alors l'apôtre Paul va écrire une lettre très très touchante, source d'inspiration pour toutes les rédactions de lettres difficiles qui peuvent être les nôtres. Apprendre à rédiger une lettre dans des circonstances difficiles, vous lirez ce petit billet qui est très très touchant. Et c'est donc un certain Tichic de cette région, accompagné d'Onésime, Onésime va faire le voyage, qui va quitter Rome pour aller donc vers Colosse, communiquer le message. Alors nous avons parlé de la ville, son environnement, de l'église. Maintenant, Paul. Eh bien, Paul, au moment où il écrit, c'est-à-dire sans doute aux environs de l'été 62 de notre ère, Paul a certainement une soixantaine d'années, une bonne soixantaine d'années. Il semble qu'il soit né à peu près en même temps que Jésus-Christ. Il a derrière lui une petite trentaine d'années de service très actif. Dans Philémon, au verset 9, puisqu'il n'y a qu'un chapitre, il s'intitule « Vieillard », et c'est vrai qu'à cette époque, on peut le comprendre, surtout avec le programme de vie qu'il avait derrière lui. Il avait des années extrêmement difficiles. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, 2 Corinthiens 11, verset 23, vous avez le curriculum vitae de ses souffrances, et c'est impressionnant. Et ça se situe quelques 5 années avant l'Épître aux Colossiens, en 57 à peu près. Alors si vous lisez ces versets 23 et suivants, je parle en termes extravagants, je suis ministre de Christ, mais par les travaux, bien plus, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verre, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. Et il continue, verset 32, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. On pourrait ajouter, et à Jérusalem, dans une ruelle sombre, par une nuit froide, on m'a volé ma voiture. Non, c'est pas dans le texte. Il est en prison, en plus. Il est en prison, pas à l'hôtel, à cause de l'Évangile. Ceci est dit 4 fois dans Colossiens, 3 fois dans Colossiens 4. Et il n'hésite pas à dire qu'il souffre. Il souffre, chapitre 1er, verset 24. Ah, mais il ne commence pas comme ça. Hein. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et il ajoute ce qui est devenu une peau de banane. Excusez-moi de le dire comme ça. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et vous savez que c'est un des textes sur lesquels la doctrine et le dogme catholique s'appuie pour faire croire que les souffrances de Christ sont insuffisantes et que nos souffrances sont méritoires et contribuent à notre salut, ce qui est absolument contraire au message de l'Évangile, tellement clair sur la question. Oh, ce verset ne veut pas du tout évoquer des souffrances expiatoires de Jésus-Christ sur la croix, comme si Jésus n'avait pas payé suffisamment en mourant sur la croix. D'ailleurs, c'est déjà très simple, le mot souffrance qui est utilisé dans ce verset 24 n'est jamais utilisé dans le texte grec. Vous savez que le Nouveau Testament a été rédigé en grec, n'est-ce pas? Le mot qui correspond à ce mot français souffrance en grec n'est jamais utilisé pour parler des souffrances expiatoires de Jésus-Christ. C'est tout simple. C'est un mot qui est l'équivalent du mot persécution, pression, tribulation, situation difficile. Il n'a rien à voir avec le terme qui est utilisé pour évoquer souffrir dans le sens de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc même si nous n'avions que cela, cela devrait déjà nous suffire. Mais il y a bien d'autres raisons. Quand on met un enfant au monde, les souffrances de l'enfantement, on ne les vit qu'une fois. Mais ensuite, vous avez les souffrances de la croissance. Hein? Que de souffrances! L'enfantement, c'est réglé. L'enfant est là. Mais ensuite, on souffre. Et vous savez que les souffrances de parents, et en particulier de maman, ne s'arrêtent que le jour où la mort vient à nous séparer des nôtres. Vous voyez? Donc il est question de la solidarité des souffrances du corps de Christ, simplement, et ça n'a rien à voir. Christ, en quelque sorte, a souffert une fois pour toutes pour notre salut. Mais c'est maintenant au travers de l'Église, qui est son corps dont il est la tête, qu'il souffre chaque fois qu'un enfant de Dieu vit une situation de souffrance, de persécution, n'est-ce pas? Je tenais à expliquer ceci parce que voilà un domaine dans lequel il est si vite fait de partir vers une déviation qui s'inscrit en contradiction flagrante avec l'ensemble des Écritures sur la question du salut. En tout cas, il souffre. Il souffre. Il nous est dit au chapitre 1er, au verset 29, « C'est à quoi je travaille, et c'est le mot « peiner », c'est un mot très très fort, je dirais je laboure parce que c'est le seul mot en français, je peine, mais je laboure parce que le labeur et le labour vous donnent une idée de la peine au travail. Hein. Autrefois, plus que maintenant, labourer était un travail très pénible, je peine, je laboure, c'est difficile. Et je laboure en combattant, et là c'est un mot qui appartient au langage à la fois de l'armée et des athlètes, et c'est le mot qui a donné agonie en français. Je peine, et je combats, et c'est pas rien, ce n'est pas peu, n'est-ce pas, avec sa force qui agit puissamment en moi. Je soutiens un grand combat, chapitre 2, verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Si vous allez au chapitre 4, verset 11, il ne cesse de peiner, de combattre en agonie pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon. Il peine, c'est dur, il est en prison. Mais il est heureux. Mais il est heureux. Il est heureux malgré les nouvelles inquiétantes de Colosse. Et il n'y a pas que dans ce verset 24 du chapitre 1er qu'il dit « Je me réjouis ». Moi, ce qui me bouleverse dans cet épître aux Colossiens, c'est de voir les 7 notes coup de trompette de reconnaissance. De reconnaissance. Il pourrait être morose, il pourrait être amer, il pourrait être révolté, et pourtant il est heureux. Or, regardez, nous allons les prendre, ces textes, chapitre 1er, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous allons plus loin, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous en parlerons demain matin. Verset 24, nous l'avons vu, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Si vous allez au chapitre 2 et au verset 7, il y a comme cette petite touche, l'apôtre Paul met le sel, je ne vais pas dire le sucre, de l'action de grâce, de la louange, comme ça, subitement, il éprouve le besoin de dire, même si ça apparaît un petit peu sans contexte qui justifierait, hein, Soyez fondés en lui, affermis par la foi, d'après des instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Hein. Il ne peut pas s'empêcher de le dire. Hein. Abondez en actions de grâce. Soyez reconnaissants. Si vous allez au chapitre 3, verset 15, là encore, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, littéralement siège en arbitre dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Au verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière, soyez ferme, soyez constant, tenez ferme dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce, cette fois. Et je pense qu'il y a un message derrière d'ailleurs ce chiffre de plénitude. Vous savez que le 7 dans les Écritures est un chiffre de plénitude, un chiffre d'absolu et d'absolu divin. Quelle que soit votre situation, eh bien, soyez reconnaissant. Oh, ce n'est pas un truc. Et là, nous touchons à une déviation que nous devrions aborder dans la série des quatre chapitres supplémentaires que nous ne verrons pas maintenant, si vous voulez. Mais je le dis, ce n'est pas un truc. Parce qu'aujourd'hui, il est de mode, hélas, dans toute une tendance évangélique, voire pseudo-évangélique, de dire, écoutez, quand ça va mal, appuyez sur le bon bouton et Dieu sera obligé de vous faire des grands sourires. Alors, soyez reconnaissant. Avec vos lèvres. Non. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Soyez reconnaissants, nous allons y venir à cause de votre relation avec Christ, à cause de lui, à cause de lui. J'ai relevé simplement, par exemple, cette remarque, la joie que nous offre le Seigneur est un fond de mer qui reste calme et paisible malgré la tempête qui trouble la surface des eaux. Nous l'avons expérimenté ce matin, à notre lever. Il y avait la tempête à la surface des eaux. Mais par la grâce de Dieu, tout de suite, c'est la première chose que nous avons fait. Ça a été de dire, mais Seigneur, nous te présentons la tempête. À quoi sert-il de te la cacher? Mais Seigneur, tu n'as pas changé. Et vous savez, la paix est descendue d'une manière toute particulière dans mon cœur au moment où j'ai pu dire ce matin au Seigneur, mais Seigneur, cet événement n'échappe pas à ton contrôle. Si tu n'avais pas voulu qu'il ait lieu, il n'aurait pas eu lieu. Nous sommes dans ta volonté. Nous n'essayons pas, pardon de le dire comme ça, de tirer le diable par la queue. Nous croyons que tu contrôles cette situation. Ah, quel bien de le dire! Et de pouvoir le dire face à la puissance des ténèbres. Donc c'est pas un truc. Nous n'avons pas le droit de faire du chantage en disant, Seigneur, je te donne 10 kilos de joie et tu es obligé de me bénir. Dieu n'est pas un épicier. C'est de mon intimité avec le Seigneur qu'il s'agit. C'est de ma relation avec lui qu'il s'agit. Je vous cite un autre passage d'un livre remarquable. Désirez-vous connaître une joie débordante et constante? Alors apprenez la vérité de 1 Pierre 1,8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La joie déclenchée par de brusques accès de gaieté relève de l'exaltation pure et peut se comparer à une fleur coupée d'une brève journée d'hiver. Séparée de sa racine, elle se fane avant le prochain coucher de soleil. La joie de la foi est le fruit et la floraison perpétuelle dont est couvert l'arbre vivant. Cette joie est aussi celle de la plante enracinée dans un jardin bien arrosé. La louange ne saurait être une drogue divine dont le but serait de calmer les souffrances de la vie. C'est parce que je connais Dieu, nous allons le dire, je vais développer cette pensée, c'est parce que nous avons une relation personnelle avec lui que nous sommes rendus capables, sans aucun sentiment de monnaie d'échange, de monnayage avec lui, de le louer dans nos circonstances. Il est une autre épître qui a été rédigée en prison, à Rome également, mais simplement pas au même moment, c'est l'épître aux Philippiens. Et dans cette épître aux Philippiens, vous savez qu'il est question 16 fois de la joie de Paul, pour 16 mentions de la souffrance. Et le grand leitmotiv, le refrain permanent de cet épître aux Philippiens, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». À l'aube de ma vie chrétienne, j'insistais sur la première partie du verset « Réjouissez-vous toujours ». Et je disais « Mais Seigneur, c'est pas possible! Comment pourrais-je me réjouir toujours ?» Jusqu'au jour où le Seigneur a clairement dit fortement à mon cœur « Mémoriste, tu te trompes, tu mets l'emphase où tu ne dois pas la mettre ». L'emphase doit être mise sur la deuxième partie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est dans la mesure de mon intimité avec le Seigneur. Dans la mesure où le Seigneur fait les délices de ma vie, qu'alors je suis rendu capable par l'action du Saint-Esprit dans mon cœur de le louer dans mes situations difficiles, quelles qu'elles soient. Et ça, je dirais que c'est un apprentissage qui n'est jamais fini. Si vous avez déjà totalement réussi dans ce domaine, je suis désolé pour vous, moi je n'ai pas encore réussi totalement. Je continue à glisser ici et là sur des peaux de banane. Ça va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans en arrière. Mais j'ai encore tant de chemin à faire. Pour que cette réalité dont nous parlons ici soit vraiment ma réalité constante. C'est l'apprentissage de toute notre vie, de trouver notre satisfaction en lui. Pourquoi ? Eh bien, j'y viens. Paul est centré sur la personne de Jésus-Christ. Paul est centré sur la personne de Jésus-Christ 56 fois dans Colossiens. En 95 versets, il évoque directement la personne de Jésus-Christ. 56 fois en 95 versets. Dans Philippiens, que je viens de mentionner, 51 fois en 104 versets. Vous savez, l'apôtre Paul aime dire qu'il est en Christ. Qu'il fait les choses appuyées sur Christ, par Christ, pour Christ. Il est un homme en Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ, dira-t-il. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir m'éteigne. Oh, il me fait penser à ce château d'Édimbourg. Nous avons visité Édimbourg il y a déjà bien des années. Et ce château a une particularité, c'est qu'il est construit au-dessus d'une source souterraine qui faisait jaillir toute l'eau fraîche dont les assiégés ont eu souvent besoin, parce que c'est un château qui a été assiégé plus d'une fois. Et c'est vrai que Christ est une source intérieure qui rafraîchit, qui désaltère dans nos combats. J'ai relevé là aussi cette citation d'un homme de Dieu du XVIIIe siècle, la première partie du XVIIIe siècle, qui faisait remarquer que trop de gens sont religieux par à-coup. Ils vont à l'église et sont comme l'eau de pluie qui pendant l'averse et un peu après coule à flot, mais qui par la suite sont plutôt asséchés. Quand une autre averse arrive, ils débordent à nouveau. Le véritable saint, par contre, est semblable à un cours d'eau alimenté par une source vive qui, bien qu'elle puisse grossir passablement avec une averse et ensuite diminuer en temps de sécheresse, ne cesse quand même jamais de couler.
Et vous en savez quelque chose ici, hein? Il est des rivières
à sec, et puis qui subitement enflent démesurément, qui font bien des dégâts. Ne soyons pas des croyants de cette veine-là. Paul est dénué de toute richesse propre, il est dénué de tout confort, de toute illusion sur lui-même. Il a eu le temps d'expérimenter la valeur des choses, des situations, des hommes. Il sait que en dehors de Christ, tout déçoit un jour ou l'autre. Et ça, c'est un des grands apprentissages de notre vie. Seul Christ satisfait pleinement, nous y viendrons, encore une fois, demain très fortement. Et dans Colossiens, il va mettre en avant un mot. Un mot qui lui aussi revient 7 fois. C'est quand même curieux. Le verbe connaître. Connaître. Un des mots-clés de cette épître aux Colossiens. Mais pas connaître au sens où nous sommes tentés généralement de l'utiliser. Ah, oh, je connais. Hein, on me présente quelqu'un. Oh, mais je vous connais. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Vous comprenez, il y a connaissance et connaissance. Et la langue grecque dispose de mots à nuance dans ce domaine, d'ailleurs l'hébreu de l'Ancien Testament aussi, et vous avez ici même un mot qui est renforcé pour dire que cette connaissance est encore plus profonde. Si vous voulez, il y a la gnose, et la gnose va nous intéresser demain matin, connaissance, mais justement dans le domaine des déviations, et puis il y a un petit mot ici qui s'appelle l'épignose, c'est-à-dire une connaissance renforcée, qui n'est pas seulement une connaissance d'ordre cérébral, d'ordre académique, mais c'est une connaissance d'intimité, une connaissance de don de soi, une connaissance de partage. Dans cette connaissance, je partage avec l'autre tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Oh, pour comprendre, c'est très simple. Le terme, déjà dans l'Ancien Testament, l'équivalent dans le texte hébreu, est utilisé 10 fois pour évoquer la connaissance dans le domaine de la sexualité. Quand dans Genèse chapitre 4, verset 1er, il est dit que Adam connut Ève, sa femme, en tout cas dans les tout premiers versets de Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme, c'est ce mot-là. C'est-à-dire que c'est aussi intime que cette connaissance la plus intime qui soit à l'intérieur du mariage entre deux êtres qui s'aiment, qui partagent d'abord une quantité d'autres valeurs spirituelles, morales, et qui un jour décide, après la connaissance du cœur, de passer à la connaissance du corps, n'est-ce pas? L'intimité. Eh bien, c'est ce mot qui est très fort dans ce texte, par exemple, verset 6. Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Vous avez expérimenté la grâce de Dieu. Vous avez non seulement goûté, mais vous avez bu à l'entrée la grâce de Dieu. Vous êtes baigné dans le torrent de la générosité absolument inouïe de Dieu, la grâce de Dieu, la beauté d'un Dieu dans son caractère, mais aussi dans ses actes, dans ses desseins, dans l'accomplissement de sa volonté, surtout en particulier lorsqu'il donne son Fils Jésus-Christ, pour que nous puissions être complètement innocentés, acquittés, déclarés justes, vus comme si nous n'avions jamais fauté, transformés, pardonnés, et nous pourrions ainsi continuer. Connaître Christ. Donc non pas seulement la connaissance intellectuelle, mais beaucoup plus que cela. Vous avez entendu certains d'entre vous parler de Richard Wurmbrand, cet homme de Dieu qui a vécu pendant entre 13 et 14 ans dans les geôles roumaines à cause
de sa relation personnelle avec Christ. Et Richard Wurmbrand a raconté qu'il avait rencontré en prison des gens qui se disaient chrétiens, croyants, et qu'il a senti profondément malheureux. C'était des personnes qui connaissaient les Écritures. C'était des personnes qui étaient capables de vous réciter des versets de la Bible. Et pourtant, elles n'étaient pas heureuses. Et Richard Wurmbrand donne par exemple le verset « Ma grâce te suffit ». C'est beau verset de la deuxième aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse », n'est-ce pas? Je dis, mais ces croyants étaient capables de dire « Ma grâce te suffit ». Mais le problème, c'est que ça ne changeait rien à leur vie. Parce qu'ils ne connaissaient pas personnellement, ils n'avaient pas une relation intime avec celui dont la grâce suffit. Ça ne sert à rien de connaître des versets. C'est important d'en connaître, nous le dirons demain. Mais ce que je veux dire, ça ne sert à rien. On peut connaître des versets de la Bible par légalisme. Parce que ça fait des médailles, vous comprenez? Mais si nous ne connaissons pas celui qui nous a donné sa parole, si nous n'avons pas d'intimité avec lui, mais à quoi ça sert de connaître des versets de la Bible? Vous savez, le diable connaît la Bible mieux que beaucoup de chrétiens. Mais ne me dites pas que le diable est heureux. Vous comprenez? Hein, il faut que sur ces choses nous soyons vraiment extrêmement clairs. Et parce que Paul est en Christ, il va, dans cet épître aux Colossiens, nous verrons pourquoi, brosser un portrait extraordinaire de Christ, dans sa personne, dans sa beauté, dans sa gloire, dans sa pesanteur, dans tout son poids. Ce sont notamment les versets 12 à 20 qui vont tant nous intéresser demain. Et puis il va aussi nous dire la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ, de l'œuvre de salut en particulier. Et pourquoi Paul le fait-il? Alors vous vous dites, mais quand viendra-t-il au cœur du sujet? Mais tout ce que nous avons partagé jusqu'ici, c'était fait pour préparer, pour donner un soubassement à ce que nous allons dire à partir de maintenant. Pourquoi Paul procède-t-il ainsi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un bémol à quelque part dans le texte que nous avons lu. Chapitre 1er, verset 23. Déjà au verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Oh, on peut lire ce passage en TGV. Ou bien on peut se laisser arrêter en disant, mais si Paul dit si, c'est qu'il y a un problème à quelque part. C'est qu'il y a un danger à quelque part. Et en fait, ce verset 23 et 24 sont le virage décisif de l'épître aux Colossiens. Si vous annotez votre Bible, vous mettez une petite clé dans les versets 23 et 24, parce que c'est le tournant de cette lettre qui laisse apparaître le problème. Oh, ce n'est pas que Paul ne soit pas heureux, on l'a dit. Il est heureux de ce qui s'est passé dans la vie des chrétiens, des croyants, des membres de l'église de Jésus-Christ à Colosse. Ils ont connu la grâce de Dieu. Ils ont reçu Christ, nous est-il dit au chapitre 2, verset 6. Cette église rend un bon témoignage. Elle témoigne dans l'amour. Hein, vous avez remarqué au verset 4 du chapitre 1er, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints. » C'est une église qui vit dans la foi. Elle est ferme dans la foi. Chapitre 2, verset 5. « Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Vous savez, l'apôtre Paul n'y va pas de main morte, il utilise là le langage militaire. Et vous avez dans ce verset que je viens de lire deux images militaires qui font qu'un traducteur a rendu de cette manière « Votre vie est aussi ordonnée que celle d'une armée et votre foi est aussi solide qu'une forteresse ». Alors vous vous rendez compte? C'était encourageant, hein? Vous connaissez beaucoup d'églises évangéliques qui aujourd'hui ont de telles qualités. Ah, mes amis. Heureuse est l'Église dans laquelle
foi, amour, vie de la grâce de Dieu, ordre, etc., règne de cette manière. Donc, cette Église a de grandes qualités, mais cette Église est sérieusement menacée par plusieurs dangers. Premier danger, ils vont ensemble, ces dangers, tout cela se tient, c'est de retomber dans l'immoralité qu'ils ont connue dans le paganisme. Ils sortent, pour la plupart d'entre eux, d'une terrible idolâtrie, de la prostitution sacrée, de tout ce qui accompagnait les cultes idolâtres, surtout dans cette région. Et à cause des faux docteurs, nous en parlerons demain, ils sont en danger de retomber dans le brebier, dans les vomissures qu'ils ont connues avant de se tourner vers Jésus-Christ. Ceci est sous-entendu au chapitre 3 à partir du verset 5. Et associé à cette menace, il y en a donc une seconde, celle de se laisser séduire par une hérésie subtile. Il y a donc des erreurs doctrinales qui s'infiltrent sournoisement dans l'Église et qui commencent à y faire des dégâts. Il y a donc des faux docteurs qui sont à l'œuvre, des prédicateurs itinérants. Donc il faut se méfier, hein. Il faut se méfier des prédicateurs itinérants, hein. Donc contrôler dans les Écritures ce qu'ils disent, ces serviteurs de passage, hein, parce qu'il y en a qui passent et qui font des dégâts. Donc des prédicateurs itinérants qui propagent des hérésies. Et pour résumer, puisqu'on va les détailler plus tard, toutes ces erreurs, toutes ces déviations, toutes ces hérésies ont une même tendance. Elles aboutissent à un même résultat, c'est que Christ est diminué. Que Christ est amoindri. Que l'évangile que ces faux docteurs présentent, parce qu'ils disent présenter un évangile, et nous verrons que c'est là le piège, c'est là la subtilité. Ils disent, mais c'est l'évangile qu'on vous prêche. Mais le problème, c'est que cet évangile est au rabais. Il est soldé, il est dénaturé, il est altéré, il est amoindri. Et il faut le voir. Il faut s'en rendre compte. Et l'apôtre Paul va les aider, ces croyants de Colosse, à s'en rendre compte. Pour préciser encore un peu, ces faux docteurs s'inspirent de tous les grands courants philosophiques de la spiritualité grecque. La Grèce joue un rôle énorme au point de vue influence religieuse et culturelle. Ils s'inspirent du judaïsme, fortement implanté dans toute l'Asie mineure. Et bien entendu, ils se servent du christianisme. Donc tous les grands courants de cette époque se présentent dans le message de ces faux docteurs, une sorte de cocktail d'éléments des grands courants religieux du bassin méditerranéen. Une sorte d'œcuménisme très attrayant. Une sorte de sagesse supérieure, d'ailleurs ils le disent. Nous avons le mieux. Notre sagesse est supérieure. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous a dit est mauvais. Mais nous avons le plus qui vous manque. Et ça, ça va beaucoup nous intéresser ce soir et demain. Alors le danger majeur, c'est que les Colossiens risquaient d'oublier que Christ est tout, que Christ suffit pleinement, que le salut que Christ offre est un salut parfait, que l'espérance que Christ met par sa présence dans le cœur du croyant est une espérance vivante et totale. Et donc il y avait dans cette église de Colosse des croyants qui se disaient, mais nous devrions peut-être effectivement chercher ailleurs qu'en Christ le secret de la plénitude. Si on mettait simplement Christ, d'accord, on le garde. Mais on va mettre un plus à côté. Chercher ailleurs le secret de la plénitude. Et donc s'arrêter en cours de route à quelque part dans la croissance en Christ et se détourner, vous avez vu au verset 23, sans vous détourner ou sans être emporté loin de l'espérance de l'évangile
que vous avez entendu sans être emporté loin d'eux. Oh. Il y a là un mot qui est très intéressant. Si je vous le dis en grec, je n'ai pas envie de vous remplir de savoir, je suis un mauvais hellénisant, comme ça ce sera réglé tout de suite. Mais il y a ici un petit mot grec qui est très intéressant. Je vais le prononcer, je ne sais pas si vous réussirez, mais on ne sait jamais. Le mot grec qui est traduit par « sans être emporté » ou « sans vous détourner », c'est « meta », ça c'est une préposition, « qui nous met noi ». Alors on va enlever le « meta », on va enlever le « noi » qui est au bout, il reste « qui nous met ».« Qui nous met ». Est-ce que quelqu'un réussit à dire un mot français qui contient ces trois syllabes et qui ressemble à ce mot-là? C'est tout simplement que le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement perpétuel. C'est l'image qui défile à un rythme, n'est-ce pas, et qui donne le mouvement. Cinéma. Alors nous, ça nous intéresse dans le cadre de notre thème, tout simplement parce que les Colossiens risquaient d'être sans cesse en mouvement, c'est-à-dire semblables à des disciples de Christ dont la vie spirituelle ressemble au mouvement perpétuel du cinéma. Être des croyants instables, des croyants en recherche constante de quelque chose de neuf, des croyants continuellement à la recherche de nouvelles sensations, de nouvelles démonstrations intellectuelles, qui ont les oreilles qui démangent pour entendre des choses agréables. Vous voyez, ils ont besoin d'images qui passent. Et vous avez trop de croyants aujourd'hui. Et je ne parle pas de ceux qui sont en dehors de Christ, parce qu'eux, alors, ils savent très bien qu'ils sont dans cette situation. Mais vous avez trop de croyants qui ont trouvé Christ. Et qui se sont laissés embarquer, n'est-ce pas? Qui sont partis à la recherche d'images, et ils abandonnent une image, ils en prennent une autre, et puis une suivante, et ils sont dans ce mouvement perpétuel qui fait d'eux des êtres profondément instables, ils deviennent superficiels, ils deviennent des croyants déséquilibrés. Martin Luther a dit ceci, « L'homme est un cavalier ivre, tombé d'un côté, quand on le remet en selle, il tombe de l'autre. » Et vous savez que c'est notre problème en tant que disciples de Jésus-Christ. Notre problème est généralement un problème de déséquilibre. Que nous ne résolvons que dans la mesure où continuellement, nous le verrons, dans notre intimité avec le Christ des Écritures, nous sommes rectifiés. En permanence, je suis un disciple de Jésus-Christ rectifié. Tantôt je pars à droite, tantôt je pars à gauche. Comprenez? Et souvenons-nous d'une chose dans cette introduction. C'est qu'il est toujours plus facile de se situer dans les extrêmes. Parce que quand vous êtes à une extrême, vous n'avez plus qu'à vous protéger d'un seul côté. Comprenez? Quand nos enfants étaient petits, bon maintenant on a de ces systèmes, hein, mais quand les enfants étaient petits et qu'on ne trimballait pas les lits pliants et tout un tas de choses, vous arriviez chez quelqu'un. Et bébé devait être couché et faire sa sieste. Alors est-ce que vous avez un endroit? Alors on vous ouvre la porte d'une chambre, il y a un magnifique lit. Si vous êtes de vrais parents, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez où est le lit. Et si c'est un lit qui est au milieu de la chambre, avec les deux bords, hein, vous dites, oh non, trouvons une solution, mettez un matelas par terre dans un coin, mais il ne faut pas que les deux côtés plongent vers le sol, vous comprenez? Et d'ailleurs l'enfant va instinctivement chercher son coin. Si nous voulons rester des disciples de Christ infantiles, ben allons aux extrêmes. Nous n'aurons qu'à nous barricader d'un seul côté. L'autre côté sera réglé. Mais le problème, c'est que nous ferons l'économie de la beauté d'une relation personnelle étroite avec Jésus-Christ. Voyez? Alors je termine. Et simplement, je termine en soulignant que nous avons des indices très clairs des quatre tendances déviationniste dans l'église de Colosse. Comme une sorte de 4x4, hein, de véhicule 4 roues motrices, mais hélas allant dans une mauvaise direction, Tout simplement parce que dans certaines versions où on est resté près du texte original, on a tenu à rendre deux expressions grecques très proches, c'est pas tout à fait la même, mais elle a exactement le même sens, par, qui reviennent quatre fois au total, par quatre expressions, ou la même expression en français revenant quatre fois. Regardez avec moi, vous allez comprendre tout de suite. Chapitre 2, verset 4, notre frère l'a lu en introduction. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous remarquez le que personne. Ça, c'est le point de repère. Afin que personne. Première tendance, et nous verrons que c'est un générique, nous comprendrons cela ce soir dans la deuxième étude, que personne ne vous trompe dans des discours séduisants. Ça, ça va beaucoup nous intéresser tout à l'heure. Regardez au verset 8. Prenez garde que personne. Vous avez à nouveau une petite expression là qui correspond à un mot qui dans le texte original est un peu différent de celui du verset 4, mais qui veut dire exactement la même chose. Vous voyez? Et puis si vous allez au verset 16, que personne, donc ne vous juge, vous remarquez à nouveau le que personne. Et si vous allez au verset 18, que personne, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc vous avez quatre que personne, et ces quatre que personne sont autant de roues motrices de ce véhicule des déviations. Elles s'interpénètrent pédagogiquement, je suis obligé de vous les présenter l'une après l'autre, sinon on n'y comprendrait rien, n'est-ce pas? Mais il faudra bien se dire que tout ça se tient parce que ça fait partie du message que ces faux docteurs véhiculent. Nous allons nous arrêter ici pour cette première étude, pour que nous puissions vraiment souffler. Je vous l'ai dit, vous avez remarqué, c'est dense, hein, tout ce que nous partageons ensemble. J'espère que nous n'allons pas décrocher, je ferai tout mon possible pour vous aider à bien tenir la route avec moi, puisqu'on parle de véhicule, que Dieu vraiment parle à notre cœur. Peut-être que je dis simplement, sans le développer, parce que je ne pourrai pas y revenir, que la région de Colosse, géographique, le milieu culturel, était très favorable à ce genre de déviation. Il y avait un culte des anges qui s'est installé juste après et qui a dû être carrément condamné par un concile, je crois au 4e siècle. Et il y avait toutes sortes de tendances. Il y a le montanisme, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église, est né dans cette région-là. Et le montanisme, eh bien, c'était une sorte de prophétisme dans lequel il y avait le parler en langue, il y avait des prophétesses qui étaient exaltées, etc. etc. Et c'est né là au 2e siècle. Il y avait tout un environnement qui était favorable. Pourquoi est-ce que je dois vous le dire? Tout simplement parce que nous vivons aujourd'hui dans un environnement très favorable à ces déviations dans les églises. Tout pousse le disciple de Christ, tant soit peu fragile, qui se marginalise un peu, qui n'est pas fidèle à l'église locale, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, qui ne témoigne pas de sa foi, eh bien tout le pousse à aller dans cette direction, n'est-ce pas? Notre environnement joue un rôle énorme à l'heure actuelle, d'où la nécessité de vraiment s'attacher au Seigneur et à sa parole. Vous avez bien fait d'être là pour cette série, pour en sortir plus fort en Christ. Et je demande que ce soit la même chose pour notre vie. Dieu nous fortifie quand nous partageons ces choses. Nous voulons simplement prier. Et prier, Seigneur, pour te remercier. Nous avons, nous, un maître étalon. Nous avons un point de repère sûr. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole vivante. Merci pour la Bible. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui en décrypte en quelque sorte le contenu pour que son message soit accessible à nos cœurs. Merci pour cette lettre aux Colossiens, tellement actuelle. Nous te bénissons de ce que un message aussi âgé dans le temps corresponde si bien à nos besoins de ces dernières années de la fin du XXe siècle. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous nous réjouissons si nous sommes en toi.
dans ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour sa vie parfaite sur la terre, pour ses souffrances et pour sa mort expiatoire, parfaitement suffisante pour nous libérer de toutes nos pesanteurs, de tout notre péché, présent, passé, futur. Nous te remercions pour son ensevelissement, sa résurrection glorieuse, signe évident que le salaire du péché avait bien été payé, était bien suffisant. Nous te remercions pour son ascension, pour sa présence à tes côtés, pour son ministère céleste en notre faveur. Merci pour l'habitation permanente de Christ en nous par le Saint-Esprit. Nous avons tant de sujets de te louer, de te bénir. Tu veux maintenant, dans ta grâce, bénir cette interréunion, notre communion fraternelle, la préparation de la deuxième rencontre, bénir les amis qui vont peut-être nous rejoindre ce soir afin qu'ils ne soient pas déphasés. Seigneur, accomplis simplement ta volonté, celle que tu avais prévue, nous le croyons, de toute éternité, pour ce week-end et pour ces moments en particulier, dans le nom du Seigneur Jésus, avec beaucoup de reconnaissance pour ta fidélité.